ces églises du Moyen-Orient, si on ne fait rien, vont perdre leurs chrétiens parce que l'immigration est telle. Et que finalement, c'est quand même là où tout a commencé. Et que si on perd, s'il ne reste plus que des pierres et qu'il n'y a plus d'âme, nous aussi, à l'Ouest, on perdra notre âme, je pense, en tant que chrétien. Donc on a un devoir de soutenir les églises du Moyen-Orient. Et toute cette diversité d'églises, de rites, montre la richesse de l'Église catholique dans le monde. On doit les aider.
Quand on sait que les églises au Moyen-Orient sont désunies, pensez-vous que les aider financièrement est une solution? N'y a-t-il pas un risque de renforcer les clivages déjà existants?
Je pense qu'il ne faut pas voir seulement l'argent. Il faut voir aussi que c'est aussi notre rôle, nous, en tant qu'organisme d'aide, de dire à ces églises, d'essayer de les mettre ensemble, qu'ils arrivent à travailler un jour ou l'autre. Dans certains pays, ça marche. Dans certains pays, vous avez la Syrie, par exemple, où il y a des projets œcuméniques qui marchent très bien. Donc, c'est possible, mais il faut voir aussi la situation politique qui peut aussi faire que c'est difficile de travailler l'un avec l'autre. Mais c'est aussi notre rôle de leur rappeler que les chrétiens doivent s'unir. Et si les chrétiens sont unis, leur voix aura beaucoup, beaucoup plus de poids envers les gouvernements que chez chaque petite église qui élève la voix.
Cette aide des différentes organisations aux églises d'Orient, à quoi va-t-elle servir? Comment va-t-elle être utilisée?
Je vois pour nous l'aide à l'église en détresse. Normalement, nous aidons simplement pour la pastorale, les projets pastoraux. Mais dans beaucoup de pays du Moyen-Orient, on est passé plus loin à faire des projets qui aident les chrétiens à rester. Des tas de projets. Par exemple, en Terre Sainte, on a financé des appartements ou des maisons pour les jeunes couples chrétiens qui puissent se marier, puissent rester et avoir des loyers qui sont abordables. Ce sont normalement des projets que nous ne faisons pas dans d'autres pays, mais pour essayer d'arrêter l'hémorragie, on est prêt à faire des projets qui ne sont pas normalement juste construire des églises. Mais on continue. La catéchèse est pour nous très très importante. Dans beaucoup de pays, je vois par exemple en Irak, on sent la soif des gens pour être formés sur la Bible, sur la théologie. Les gens passent leurs jours de congé à aller écouter des classes de Bible ou de théologie. Je ne sais pas si nous, en Europe, on ferait ça pendant nos week-ends.
L'aide procurée par la ROACO aux églises du Moyen-Orient, provenant notamment de l'aide à l'église en détresse dont vous faites partie, est conséquente. Alors ne court-on pas le risque d'en faire des églises assistées?
Tout dépend. On ne donne pas de l'argent comme ça, en disant « bon ben, on va vous aider, simplement vous proposer un projet, on va le faire parce que c'est le Moyen-Orient ». Non, quand même, on étudie avec les églises locales en leur disant « ben voilà, ça c'est peut-être possible, ça c'est pas possible ». Par exemple, en Irak, normalement, l'église d'Irak ne devrait pas avoir besoin d'argent. C'est un pays très, très riche. Mais pour le moment, ils ont besoin d'aide. Donc, on est là pour le faire. Ça ne veut pas dire qu'on continuera pendant... Si la situation en Irak s'améliore, pourquoi continuer? Je pense qu'un jour ou l'autre, ils arriveront à être de nouveau sur leurs pieds et autonomes.